Éthique, 21 janvier 83, Raymond, Père Philippe.
Bon, je vais d'abord répondre aux quelques questions posées. Vous avez dit que le choix est un acte de volonté qui présuppose un acte d'intelligence, le conseil. Mais le choix n'est pas seulement un acte de volonté. Il est un acte de volonté et en même temps un acte d'intelligence. Les deux étant très liés, à tel point qu'on peut dire aussi bien que c'est un acte de volonté et d'intelligence que c'est un acte d'intelligence et de volonté. On peut dire les deux. Tellement dans le choix, c'est, je crois, l'acte dans lequel l'alliance ou la coopération entre l'intelligence et la volonté est la plus forte. C'est là où il y a une fusion presque de l'intelligence et de la volonté. C'est très intéressant parce que ça fait comprendre comment, dans la perspective de Épictète, nous l'avions vu l'autre jour, pour ceux qui assistaient au séminaire, dans la perspective, la proairesis, c'est le choix, définit la personne. Psychologiquement, le choix définit la personne. Ça, je crois très fort. C'est pas du tout la personne au niveau métaphysique, mais c'est la personne au niveau psychologique, au niveau éthique. Mais n'y a-t-il pas, avant le choix, au niveau du conseil, un acte de volonté qui fait adhérer ou non aux divers jugements pratiques de l'intelligence? Le conseil est un acte d'intelligence, d'information. C'est pour ça qu'on peut demander conseil à plusieurs personnes. Tandis qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de choisir pour nous, même les scrupuleux. Choisissez pour moi. Faites le choix pour moi. C'est très dangereux, ça. C'est très dangereux. On peut dire, je veux entrer dans la communauté Saint-Jean par obéissance. Ça, c'est autre chose. Je suis incapable moi-même de choisir, alors j'entre par obéissance. Ça peut se faire, ça. Mais vous voyez, c'est très particulier, parce qu'on s'en remet à l'autorité. Il y a des choses qu'on ne peut pas choisir soi-même, en définitive. Alors on s'en remet dans l'obéissance. Mais ce n'est pas demander à l'autre de choisir pour nous. Parce que par l'obéissance, on coopère au choix. Dans l'acte d'obéissance, on est co-responsable. Il ne faut pas croire du tout que c'est celui uniquement qui exerce l'autorité qui est responsable. Pas du tout. On est co-responsable. Et si celui qui obéit a plus d'amour que celui qui exerce l'autorité, ce qui normalement doit arriver, donc celui qui obéit a plus d'amour que celui qui exerce l'autorité, vous voyez que celui qui a plus d'amour aurait une responsabilité plus grande que celui qui exerce l'autorité. C'est extraordinaire, ces choses-là. Et pourtant, c'est ce que nous devons comprendre, cela. Vous voyez, c'est très important d'essayer de saisir le lien entre le point de vue volontaire et le point de vue de l'intelligence. L'esprit humain se définit par l'équilibre constant du point de vue de l'intelligence et de la volonté. Je vous ai déjà dit, hein, ayez dans l'esprit ce petit schème, du moins ce petit fantasme. On voit de temps en temps dans des forêts de pins, je me souviens de certaines choses très étonnantes, des points de départ, vous voyez comme ça, tout à fait presque le même tronc, partent des points de départ. L'esprit, il est dans l'intelligence, il est dans la volonté. Et là, il y a constamment. Et alors, il y a cette chose très étonnante du choix. C'est que le choix des deux s'arrête. Il y a un amour qui est premier, c'est évident. Il y a l'intelligence qui peut se développer. Et le choix fait que les deux, il y a le dessin ici, si vous voulez, c'est encore mieux, pour avoir un sommet. C'est un sommet, le choix. Mais c'est un sommet qui est dans l'esprit, et c'est ce qui fait cette chose très curieuse, c'est que le choix reprend initialement l'amour. quand vous choisissez vraiment, surtout dans le choix d'un ami, le choix que nous regardons, parce que quand il s'agit du choix d'un moyen, alors je mettrai le moyen ici, vous voyez, le choix d'un moyen ne caractérise pas nécessairement la personne. Quand vous choisissez, je ne sais pas quoi, tel ou tel outil plutôt que tel autre, hein, quand vous choisissez self-service, telle ou telle chose plutôt que telle autre chose, ça ne définit pas nécessairement votre personnalité, puisque la plupart du temps, on ne fait pas grande attention, chose secondaire, on passe vite, n'est-ce pas ? Sauf si vous aimez beaucoup la mode, alors vous arrêtez longtemps pour choisir, n'est-ce pas ? Alors là, c'est très très différent. Alors à ce moment-là, ça peut relever de l'intelligence esthétique. Et ça révèle l'intelligence esthétique, c'est bien évident. Quand vous voyez quelqu'un qui veut choisir ses meubles, c'est très très significatif. Choisissez vos meubles ici, hein. Alors c'est extraordinaire, ça, comme choix esthétique. Alors on voit très très bien qu'à ce moment-là, ça ne correspond pas beaucoup à notre choix esthétique. On utilise ce qu'on nous a donné. Voyez, donc on ne choisit pas, on choisit en l'utilisant. Ce qu'on fait nôtre. Mais le choix d'un ami, c'est très différent. Là, je suis en face des moyens. Dans les moyens qui sont inférieurs à la fin, on dit que l'ami est coextensible à la fin, puisqu'il est la fin propre. Le moyen, il est inférieur. Et là, parce qu'il est inférieur, il est moins aimé. Il est aimé en fonction de la fin. Et parce qu'il est moins aimé, l'intelligence n'a plus de part. Plus les moyens sont des moyens, c'est-à-dire relatifs à la fin, plus dans le conseil à l'égard de ces moyens, l'intelligence n'a plus de part. C'est très cru. Tandis que plus les moyens s'identifient à l'ami, un ami c'est un moyen et c'est une fin. Et donc l'amour est beaucoup plus fort là, dans ce choix. Et ici, le choix du moyen, le choix classique du moyen. Et puis ici, le choix imminent de l'ami. Le choix imminent de l'ami, l'amour est plus présent dans ce choix que dans le choix du moyen, des moyens ordinaires qui sont relatifs à la fin. Et la part de l'intelligence est plus forte ici. Si on pouvait mesurer. C'est très important de voir ça dans notre vie. Vous voyez, quand il s'agit d'un choix de vie, entrer dans telle ou telle communauté, ce n'est pas un petit moyen. Un petit moyen, ce n'est pas comme un outil. Quand on choisit une auto, c'est quelque chose de secondaire, ça. C'est secondaire. Alors la part intellectuelle est beaucoup plus grande. Tandis que quand on choisit quelque chose qui est beaucoup plus proche de notre fin et qui est lié à notre fin, la part de l'amour est beaucoup plus grande. Et c'est pour ça que dans la mesure même où l'amour est plus grand, il y aura moins de conseillers. Pour le choix d'une auto, vous demandez au garagiste. Hein, vous avez, j'ai confiance en toi, tu n'as pas roulé jusque maintenant, je ne sais jamais. Mais j'ai confiance quand même. Hein. Alors, dis-moi un peu, tu connais. Oui, la part de l'intelligence, de la compétence est beaucoup plus grande. Tandis que quand il s'agit d'un ami, si on éprouve le besoin de demander conseil, on demandera conseil à quelqu'un qu'on sait qui nous aime. Ce ne sera pas la compétence, ce sera la question de la conformité du cœur. Ce sera la proximité du cœur qui prendra le dessus, tandis que le choix. C'est pour ça que vous voyez, quand on parle du choix, il faudrait presque. Et pourtant, c'est le même mot. Hein. C'est le même mot qui est à ces deux niveaux tout à fait différents, le choix. On choisit un ami, on choisit une auto. C'est totalement différent. Hein. Puisque d'un côté, je vous dis, c'est le moyen, de l'autre côté, ça touche la question de la fin. J'ai choisi d'entrer dans telle vie religieuse. J'ai choisi vraiment le Christ pour être celui qui est mon sauveur. C'est un choix. C'est évident que c'est un choix. Un choix libre. Vous voyez la qualité du choix, alors, pousser encore plus loin. C'est le point de vue surnaturel, le choix à l'égard du Christ, à l'égard du Sauveur.
Donc c'est quelque chose qui mise tout ça. Et c'est encore un choix. Vous voyez, Dieu veut qu'on le choisisse. C'est très extraordinaire, Dieu fait ça. Dieu veut qu'on le choisisse. Grâce à l'incarnation, Dieu tombe sous le choix. Grâce à la foi, Dieu peut être choisi. Mais plus l'incarnation est forte, plus le choix est intense. Et au fond, c'est dans l'Eucharistie où le choix est le plus parfait, comme choix. Où il se donne à nous, sous la forme de l'aliment. L'aliment, c'est un moyen pour qu'il soit davantage choisi. C'est très extraordinaire. Quand on comprend ça comme pédagogie divine, vous voyez, ça fait comprendre combien le choix va pénétrer profondément dans notre vie pour, de fait, permettre à l'amour d'être plus libre. Parce qu'en définitive, c'est ça. C'est de permettre à l'amour d'être plus libre. Il y a une plus grande liberté dans le choix du mystère de l'Eucharistie que dans le choix de la personne du Christ. C'est vrai qu'une nouvelle épreuve est, on va dire la foi, et un nouveau choix. Et donc une nouvelle liberté, et une liberté plus grande. Il faudrait faire toute la gamme, ce serait très intéressant, vous voyez. Ce serait très intéressant. C'est curieux qu'au point de vue psychologique, ça n'a jamais été fait, je ne crois pas, du moins. Ce serait très intéressant, parce qu'il y aurait là, vous voyez, des choses extraordinaires à faire comme test, parce que ça peut se faire sous mode de test. Le test de Saint Jean. Hein. Votre intelligence, vous demandez ça. La psychologie, l'aspect médical, l'aspect. On verrait un tout petit peu la hiérarchie, sans que ce soit dit, n'est-ce pas ? Et on verrait tout de suite la qualité d'un choix. Je crois beaucoup plus à ça, vous voyez, la qualité d'un choix à différents niveaux, que de mettre sur la droite le positif et sur la gauche le négatif. Ça, c'est beaucoup trop intellectuel. Parce qu'on tombe dans les motivations. Tandis que là, il faut respecter le choix dans toute sa pureté. Et le choix traduit la personne. Psychologiquement, je crois que c'est l'acte qui traduit le plus la personne. Et ça la traduit, n'est-ce pas ? Parce que c'est pas d'ordre. C'est pas la personne au niveau métaphysique, mais c'est la personne au niveau. Et c'est pour ça qu'au point de vue éducatif, au point de vue éducatif, c'est la question du choix qui est la chose la plus importante. Il faut apprendre aux gens à choisir. Et ce serait peut-être le nœud de l'éducation. Apprendre aux gens à choisir. Apprendre suffisamment de recul quand il faut prendre du recul, prendre suffisamment de conseils quand il faut prendre du conseil, et puis s'engager. Parce qu'on s'engage. Parce que quelquefois, il suffit que quelqu'un soit près d'un choix pour que immédiatement, exactement comme le cheval quand il est en face d'un obstacle, à la course, vous savez, il prend tout. C'est un peu ennuyeux pour le spectateur. Parce qu'à la place, il a peur. Il a peur, alors il s'arrête. Il y a quelque chose comme ça dans le choix, tu vois. Parce qu'il y a le dépassement. Quand on choisit, on fait le choix libre, mais on s'engage relativement à une personne. Et donc, d'une certaine manière, on perd sa liberté de vieux garçon. Ou d'intellectuel, ce qui revient au même, vous voyez. Parce que dans les cas, alors, on perd sa liberté de vieux garçon ou d'intellectuel parce qu'on introduit quelque chose, un élément nouveau, l'autre, au plus intime de notre cœur. C'est très ennuyeux. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une brèche. Et il y a cela dans le point de vue du choix. Il faut bien le saisir, ça faut. Mais n'y a-t-il pas, avant le choix, au niveau du conseil, un acte de volonté ? C'est bien évident. L'acte de volonté premier, c'est l'amour. N'est-ce pas ? Nous avons vu successivement. N'oubliez pas, parce que ça, nous sommes obligés de le voir successivement. Mais ce n'est pas successif, puisque tout ça est spirituel. Alors, il y a le premier amour. Regarde bien. Il y a l'intention de vie. Ça, c'est des actes d'amour. Je regarde le point de vue de la fin. Et puis, il y a le choix. Troisième situation. Et tout ça est présent dans le choix. L'amour premier, l'intention de vie, se noue dans le choix. C'est le nœud. Ça se noue dans le choix. Et c'est dans le choix où tout ça reprend non plus une nouvelle exigence, et par le fait même une nouvelle ferveur dans une liberté plus grande. La présence de l'intelligence est de plus en plus forte depuis ce premier amour jusqu'au choix. La présence de l'intelligence est de plus en plus forte. Et parce que la présence de l'intelligence est de plus en plus forte, la liberté est toujours plus grande. Et la liberté étant toujours plus grande, permet à l'amour de se dénouer, de se dévoiler plus profondément. Il y a une croissance, normalement. Mais alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout considérer le choix comme une conclusion. Ce qu'on fait très facilement quand on prend le chemin de la délibération. J'ai délibéré, au terme de la délibération, j'ai choisi. Oui. Alors à ce moment-là, le choix apparaît comme une conclusion. Si le choix est une conclusion, il est donc inférieur au premier amour, à l'intention de vie, il vient en troisième situation. C'est une conclusion désastreuse. Le choix peut apparaître comme une conclusion, terme d'une délibération, quand il s'agit d'un moyen. Ça, c'est vrai. L'achat d'une auto. Ou le choix d'un itinéraire. Il y a deux routes parallèles, vaut-il mieux prendre celle-là? Vaut-il mieux prendre l'autoroute? Il y a une délibération. Vous comptez le nombre de kilomètres, vous regardez les choses, et puis c'est aujourd'hui la route sera très prise. Et alors, il y a toute une délibération, toute une information qui se fait. Il fait beau temps, il fait mauvais temps, et ainsi de suite. C'est la nuit, il y a du brouillard. Toutes les circonstances, tout ça de l'ordre de la délibération. Et votre choix du moyen, quand c'est un pur moyen, est un peu une conclusion d'une délibération. On a conclu ça, maintenant on n'en parle plus. Mais c'est terminé. Vous ne dites jamais ça quand il s'agit d'un ami. Oui. Pourquoi? Parce que ce choix du moyen aboutit au terme d'une délibération. Alors c'est comme une conclusion, ça c'est très vrai. Et l'amour que vous avez pour ce moyen est beaucoup moins grand, normalement, que l'amour que vous avez pour la fin. Quand vous avez autant d'amour pour le moyen que pour la fin, ça devient grave. Oui, parce que ça prouve que votre fin n'est plus aimée avec autant d'intensité. Il y a une fuite. Alors, le moyen est très aimé. Le moyen doit toujours être relatif à la fin. Toujours. Et quand le moyen est plus aimé, est trop aimé, situation limite. Il y a une situation limite par rapport au choix. C'est quand nous aimons plus le moyen que la fin. Ça peut arriver. Ça peut très bien arriver, ces jours-là. Alors, à ce moment-là, c'est l'intelligence qui reprend et qui mesure l'amour. Parce que l'intelligence peut mesurer l'amour à l'égard d'un choix, qui est un choix d'un outil. Quoi. Un outil qu'on aime beaucoup, un petit bijou, un outil extraordinaire, la dernière réussite, quelque chose d'extraordinaire. Puis on est seul à l'avoir. Ça joue aussi beaucoup, ça. Quand tout le monde l'a, ça n'a pas d'intérêt. Et quand on est seul, on ramène ça d'Amérique, on ramène ça du Japon. Extraordinaire, c'est pas encore introduit en Europe. Et alors, on l'aime quand même. Et alors, il y a cette espèce d'affection particulière qui fait qu'on s'y attache. Et que ce serait catastrophique si ça disparaît. Alors que les moyens, non, c'est... Et de même que le choix indique une préférence parmi tous les possibles réalisables, ne faut-il pas un jugement pratique ultime préparant cette adhésion affective? Oui. Cette adhésion affective implique nécessairement un jugement. Mais le jugement, c'est le choix. Ce n'est pas un jugement antérieur au choix. Le choix lui-même est une préférence. Il implique un jugement. Il implique un ordre. Vous pouvez très bien ordonner les moyens. Il y a des moyens voyez, il y a un ordre dans les moyens. Dans l'ordre de l'amitié, il n'y a pas un ordre.
Oui, il y a l'ami numéro 1, mais si ça rate, il y a l'ami numéro 2. Et si ça rate, l'ami numéro 3.
Mais, vous voyez, à ce moment-là, vous transposez le choix ami vers le moyen. Là, vous avez tout à fait le droit de vous dire.
Celle-là, si ça ne marche pas, il y aura l'autre, il y aura un troisième. Vous avez le droit de faire ça. Ce sont des choses que vous utilisez. Dans l'ordre de l'utilisation, il peut y avoir un ordre.
Tandis que dans l'ordre de l'amour, c'est plus l'utilisation. Vous n'utilisez plus l'ami. C'est là on voit très bien que ce n'est plus de l'ordre de l'utilisation.
C'est l'ordre de l'absolu. L'ami est un absolu.
C'est toujours pour ça qu'il est toujours un peu unique.
Quand vous mettez une graduation,
ça, c'est plus le choix. Vous pouvez constater après, j'ai tel ami, j'ai tel autre ami, j'ai un troisième, celui-là est le premier de ce côté-là, et ainsi de suite. Vous mettez un certain ordre, ça peut se faire. Mais c'est après, c'est pas au moment du choix. Au moment du choix, l'ami est aimé comme ami. Et donc comme celui qui est ma femme. Oui, c'est complexe, hein. C'est pas étonnant, c'est ce qu'il y a de plus. À la fois très simple, l'acte de choix, c'est très simple, mais c'est très grand, parce que ça nous fait bien comprendre le lien entre l'intelligence et la volonté. C'est là où on le comprend le mieux, dans l'ordre pratique, vous voyez ? C'est là où on le comprend le mieux, c'est là où vraiment le point de vue de l'intelligence et de la volonté sont le plus liés. Et donc, c'est bien évident que le choix, que le conseil, parce que le conseil est ici. Le conseil est d'ordre beaucoup plus à l'intelligence. Ce conseil présuppose l'intention de vie. Parce que si je n'ai pas l'intention de vie, je ne peux pas choisir de moyens. Je ne choisis les moyens que dans la mesure où il y a cette intention de vie et qu'on désire réaliser, on désire passer de l'union affective à l'union effective. Hein, jamais oublier ça. Et quand vous ne voyez plus exactement le choix que vous devez faire, intensifier l'union affective qui éclairera le moyen. Ça, c'est toujours comme ça qu'on doit faire. C'est toujours à partir de l'intention de vie que j'éclaire affectivement le point de vue du conseil, la phase d'information. Très utile. Puis à partir de là, il y a un choix des moyens. Et le choix des moyens implique un acte de jugement, d'estimation. Ce n'est pas extrinsèque au choix. Il ne faut pas dire il y a quelque chose qui est extrinsèque au choix qui sera un jugement après. Non. C'est le jugement lui-même du choix qui fait le discernement, qui donne à tel moyen un sort unique. Et encore une fois, quand il s'agit d'un moyen que j'utilise, il peut y avoir en même temps que le choix, un, deux, trois. Les candidats qu'on choisit, vous voyez, succession de la chaîne. Alors on choisit trois candidats. Bon, un, deux, trois, et on met un ordre, on estime, oui, on fait une estimation. On estime. Il n'y a pas que les candidats, ça peut être aussi un cheval qu'on choisit, tu vois. Ça fait partie des choix, et vous choisissez graduellement, selon l'estimation que vous faites. Tandis que quand il s'agit de l'ami, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça, c'est impossible. Mais, alors là, vous voyez bien toute la différence qui existe entre ce choix et un autre choix. Quand il s'agit de la vie religieuse, c'est entre les deux. Ah, si ça rate au Carmel, j'irai chez les bénédictines. Si ça ne va pas chez les bénédictines, j'irai, et ainsi de suite. Et là, vous pouvez mettre 1, 2, 3. Mais c'est très mauvais. C'est très mauvais, parce que alors vous louchez, et vous continuez de loucher, et donc vous ne vous donnez pas. Alors, vous voyez, c'est comme celui qui veut sauter, il y a derrière quelque chose qui est luxueux. Si ça rattrapit, je me rattraperai. Alors à ce moment-là, il y a des chances que le numéro 1 soit très vite effacé, le numéro 3, alors il ne restera plus que celui-là, et ce sera le dernier. Oui, parce que d'avance, vous abdiquez. Quand on choisit vraiment un moyen qui pour nous, alors on s'y donne totalement. Ça peut être une tentation permanente, c'est très curieux, ça c'est louché. louché dans le choix, vous voyez, c'est tout à fait normal quand il s'agit d'une auto. C'est tout à fait normal quand il s'agit d'un candidat ou quand il s'agit d'un cheval de course. C'est tout à fait normal. On peut loucher. Mais quand il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond de notre vie, qui est lié à notre fin, ah, c'est dangereux. Parce qu'il exige un don total. C'est un moyen qui est conjoint à la fin. Et c'est vrai. C'est un moyen qui est conjoint à la fin. Alors, si c'est un moyen qui est conjoint à la fin, c'est toujours très dangereux. Qu'il y ait une phase intermédiaire, l'Église est intelligente. On voit du conseil, alors elle vous dit, vous avez le temps avant de vous engager. Vous avez le temps. Alors, vous pouvez très bien, phase d'information, vous hésitez, bien, très bien, aller voir. Alors, vous passez de l'un, candidat, candidat 2. Vous pouvez aller voir. C'est normal qu'on vous laisse libre. On vous laisse absolument libre. On ne demande pas tout de suite d'engager. Quand il s'agit du mariage, l'Église ne dit pas ça. Alors, oui, c'est transposition, vous voyez, mariage à l'essai. Mais c'est transposition, ça. On ne peut pas. Parce qu'il s'agit d'un ami. Alors, je ne peux pas faire ça par rapport à l'ami. Ce serait transposer dans l'ordre de l'ami, qui est un absolu, l'utilisation. Très important de comprendre ça. Et voyez le système ad experimentum. Hein, le système ad experimentum. Bien, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que ad experimentum, ça risque de ramener à l'utilisation des moyens. Dans l'amour, on ne dit jamais à quelqu'un, eh bien, on va essayer de voir hein, si ça marche. Ad experimentum. Non, non. Parce qu'à ce moment-là, vous rabaissez l'ami au niveau du moyen. On dit aujourd'hui, on rabaisse l'ami au niveau de l'objet. J'aime mieux dire moyen, c'est plus vrai. L'objet, c'est faux, parce qu'alors on ne sait plus très bien ce que c'est. Ça se dit couramment. Ça se dit couramment. On ramène la personne à un objet. C'est parce que l'objet a perdu son sens. Il y a, en réalité, il devient un moyen. Mais en prenant le sens propre, on doit dire beaucoup plus un moyen. Un moyen qu'on utilise. Vous avez parfaitement le droit d'utiliser pendant 8 jours une montre pour voir si elle est bonne ou pas. N'est-ce pas ? On peut le faire. Et le système commercial consiste à faire ça. Si on est pour utiliser ad experimentum, vous voyez le commerce ad experimentum, vous allez utiliser ça pendant quelques jours, vous l'avez, et alors on espère qu'en l'utilisant, votre cœur sera pris. Bon, là, vous voyez cette chose importante, hein, d'une manière très très magnifique. Hein. Entrée libre, c'est gratis, entrée libre. Et puis on laisse, et puis l'entrée étant libre, au bout de 8 jours, 15 jours, tu tiens. Pouvez-vous distinguer acte libre, acte volontaire, acte moral. Où se situe la responsabilité? Quel est le lien entre amour et responsabilité? Bon, alors, il faut essayer de distinguer. Je vous ai déjà dit, il faut bien distinguer acte, l'acte d'amour et l'acte libre. L'acte d'amour et l'acte libre. L'amour est premier. Il n'est pas nécessairement libre. L'amour est antérieur à la liberté. Ça, il faut bien le comprendre. Hein. L'amour est antérieur à la liberté. C'est cela que Descartes n'a pas compris. Souligné de temps en temps. Et ce que Occam non plus. Presque toujours. Hein. Il faut remonter de Descartes à Occam, étant donné que Descartes a simplement parlé en langue française, ce que n'a pas fait Occam. Donc, il est moins clair. Tandis que Descartes a parlé en langue française, il dit les choses clairement. Du moins, il a supposé les dire clairement. Et on sait très bien que c'est dans une très grande obscurité. Mais ça, pour Descartes, la liberté est antérieure à l'amour. Il faut être libre pour aimer. Ça prouve que Descartes n'a jamais aimé. Il ne faut pas être libre pour aimer. Il faut tout simplement aimer pour aimer. Tout simplement. Et quand vous aimez, vous n'avez pas le pouls, Est-ce que j'ai été mis pour aimer? Non, j'aime. Et cela me suffit. Ça vous est bien égal d'avoir été mis pour aimer. Quand vous aimez, c'est tout. Vous aimez un bien qui s'impose à vous. Ça, c'est très vrai, c'est comme ça. L'amour est en dehors de la liberté, est au-dessus. Ça, c'est la réalité profonde, hein. C'est la réalité profonde qu'on se connaît bien. Alors, je suis libre d'accepter ou de ne pas accepter cet amour. L'amour, la liberté apparaît donc ici, en premier lieu, entre cet amour qui s'impose à moi, que je découvre, que je mets quelquefois très longtemps à découvrir. Hein. Ça, c'est pas si commode que ça de dévoiler un amour et de comprendre qu'on aime. Parce que, ordinairement, il est souterrain. Un amour, même un amour spirituel, un amour volontaire, hein, il est souterrain et je ne m'en aperçois pas. Il faut quelquefois la séparation pour m'apercevoir que j'aime. Et c'est pour ça que la séparation est quelquefois nécessaire pour dévoiler l'amour. Pour comprendre qu'il y a un amour sous roche. On n'avait pas vu. Tout le monde qui était autour le disait et la personne intéressée ne voyait pas. C'est très curieux ces situations, c'est très curieux. C'est une situation assez curieuse de voir ça. Et alors, il y a le point de vue de la liberté qui fait qu'on accepte. Alors, quand il y a la liberté, on est conscient. On est conscient. Dans l'acte libre, donc grand conscient, à partir de l'acte libre, je suis donc responsable. Le premier amour fondamental qui s'impose à moi, je ne suis pas responsable. Mais je suis libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Alors à ce moment-là, je deviens responsable. Mais dès qu'il y a liberté, il y a responsabilité. Et dès qu'il y a responsabilité, il y a la morale. Et donc le premier amour est au-delà de la morale. C'est en ce sens-là que je peux dire que l'amour fonde la morale. Tandis qu'autrement, il y a répétition de principe. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à partir de Descartes. On essaie de savoir, est-ce que la morale se fonde sur la liberté? Ou est-ce que déjà l'acte libre, c'est un acte moral? Mais si j'oublie ça, c'est ça qui est intéressant à voir. Si je ne mets pas ce premier amour, et que je mets l'acte de liberté ici, et que je dis que la liberté est avant l'amour. Alors, la morale ne se fonde plus sur l'amour, elle se fonde sur la liberté. Alors, la liberté, elle est morale, et donc la morale a son propre fondement en elle-même. C'est pas juste. C'est l'amour qui fonde la morale. La liberté naît ensuite, et la liberté me met en face de mon premier acte moral. Quand je suis libre, la responsabilité commence. Elle commence avec la liberté. Et une liberté, vous voyez, qui ici était une liberté très très fondamentale, la liberté d'accepter ou de ne pas accepter. Ce n'est pas une liberté de choix ici, c'est une liberté d'accepter ou de ne pas accepter. Je suis libre d'accepter ce premier amour fondamental ou de refuser. Et une fois que j'ai accepté, j'en suis responsable. Alors cette responsabilité, elle va se préciser dans l'intention. Cette responsabilité, elle va se préciser dans le choix. Alors, vous voyez, la liberté augmente, la responsabilité augmente, et donc l'aspect moral augmente aussi. Il est évident que le choix va tout de suite faire comprendre le point de vue moral dans toute sa force. Si vous voulez regarder la morale au niveau de l'acceptation de ce premier amour, il n'y a pas grand-chose encore. Hein. C'est l'aspect successif qui va montrer le point de vue moral. Et ordinairement, on considère le point de vue moral qu'au niveau du choix. Mais Kant, quel est le fondement de la morale chez Kant? C'est le choix. Je crois qu'il n'y en a pas avant. C'est le choix. Le choix volontaire. Le choix libre qui me rend responsable, l'impératif catégorique. C'est même pas le choix, c'est l'impératif catégorique. Ça va voir après. Mais c'est déjà le choix d'une certaine manière. Mais c'est l'impératif catégorique. Et c'est l'impératif catégorique qui au fond commande tout. Et c'est là le point du moral, alors que la morale commence bien avant. Et la morale s'enfonce dans quelque chose de beaucoup plus profond quand on dit que la morale, c'est... Alors, quand la morale provient et se fonde sur l'amour, elle se fonde sur le bien. Mais le bien est au-delà de la morale, puisqu'il le fonde. Alors, je peux dire que ce qui structure la morale, c'est la finalité. Je crois. Ce qui structure la morale, c'est la finalité. Ce qui fonde la morale, c'est le bien. Et ce qui structure la morale, c'est la finalité. Je suis un être moral dans la mesure où je suis finalisé. Et la structure de mon être moral provient de ma finalité. Et alors, je précise cette structure par le choix. Donc, je suis déjà très engagé quand je choisis. Le choix numéro 3. Alors, l'acte volontaire. L'acte volontaire, c'est un acte d'amour. Donc, il peut y avoir un acte de volontaire antérieur à la morale. Parce que ce premier acte d'amour relève de la volonté. C'est ma volonté qui me fait aimer spirituellement. L'appétit spirituel, c'est la volonté. Et donc, ce premier acte volontaire, il est amoral. Quand je dis amoral, il est métamoral. Il est au-dessus, du fond. Il est quelque chose d'antérieur. Donc, je n'identifierai pas volontaire et moral. Faisons attention. Le point de vue volontaire a une extension plus grande que l'aspect moral. Tandis que le point de vue responsabilité et liberté le même. Alors faisons comme ça, si vous voulez, pour avoir une petite échelle de valeur. Je dis ça hein, à titre de recherche avec vous. Hein. Si vous me donnez des arguments qui montrent que ce n'est pas juste ce que je dis, on discutera. Mais je crois quand même que ce que j'avance là peut se justifier. Moi, je ne dirais pas. Le bien qui est au niveau de l'amour spirituel, qui est volontaire. Deuxièmement, l'acceptation de ce bien, l'acceptation libre. J'accepte ou je n'accepte pas ce bien, cet amour spirituel, cet amour volontaire. Je l'accepte ou je l'accepte pas. Dès que je suis à ce niveau de la liberté, la responsabilité apparaît. Et comme cet acte est libre, il est responsable. C'est un acte libre, responsable. Je dirais qu'à partir de là, je suis à un niveau moral. Au fond, l'aspect moral apparaît avec la responsabilité et la liberté. Et ça apparaît très vite. Hein. Ça apparaît au niveau de l'acceptation ou pas l'acceptation de cet acte fondamental, de cet amour fondamental et premier. Et donc, l'intention de vivre, qui naît à partir de cet amour spirituel accepté, libre, l'intention de vie va structurer ma morale. Je ne peux pas dire que la morale est fondée sur l'intention. Structurée, j'aime mieux dire ça, c'est à l'intérieur même. Et donc on peut dire que le monde moral en moi va se structurer à partir de la fin. Et il se fonde sur le bien. C'est pour ça que le passage du bien et la fin sont si importants pour comprendre la différence qui existe entre la structure même de ma vie morale et de ce qui fonde ma vie morale. Donc vous voyez, l'acte volontaire, l'acte moral. Où se situe la responsabilité, quel est le lien entre amour et responsabilité. Le lien entre amour et responsabilité, c'est l'acceptation libre de cet amour. Et l'acceptation libre de cet amour, à partir de là, naît la responsabilité. La responsabilité n'est pas au niveau de ce premier amour. Ce premier amour est irresponsable, parce qu'il est foncier. il est premier. Il y a un appétit naturel vers le bien.
Un appétit naturel, un appétit volontaire vers le bien.
C'est très important de comprendre ça. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend plus du tout. C'est vrai, le drame qui peut exister dans un cœur humain, il peut exister. Et le drame qui peut exister, il ne faut pas dire, ah, voyez bien, cette personne-là, c'est pas étonnant. C'est autre chose. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la volonté qui nous fait aimer le bien. Bien, nous l'acceptons, nous sommes responsables, la morale vient à partir de ce moment-là. Il faut assister à la naissance de la morale. La morale naît en nous. Dieu n'est pas un être moral. Heureusement. Tandis que Dieu est le bien. Il n'y a pas d'intention de vie en Dieu. Il n'est pas un être intentionnel. La morale est au niveau de l'intentionnalité. Et c'est vrai, c'est au niveau de l'intentionnalité. C'est au niveau de cette responsabilité à l'intérieur de l'amour. Bon, je crois qu'il n'y a pas de difficulté pour ça, nous allons continuer. Et continuer, c'était justement de nous enfoncer un peu plus dans le choix, ce que nous avions déjà fait, et je crois que ça va vous aider à mieux comprendre maintenant. Je peux maintenant, si vous voulez, comprendre que tout choix personnel, le choix est toujours personnel, va toujours impliquer amour et intelligence. D'une manière tellement forte que je ne peux plus les séparer. Je suis donc en face d'une intelligence affective dans le choix, intelligence affective dans ce qu'elle a de plus fort. Je suis en face d'une connaturalité profonde avec le bien, avec le moyen, et je comprends qu'il y a parmi les choix toute une gamme. Depuis le choix de l'ami, jusqu'au choix de l'outil. Je prends exprès le choix de l'outil parce que je crois que c'est l'outil qu'on choisit de la manière la plus objective. Quand on connaît un peu son métier. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas son métier choisit très mal les outils. Mais celui qui connaît son métier, il sait choisir. Il choisit son outil comme un artiste sait choisir son violon. Tandis que quelqu'un qui ne sait pas, il choisira le plus cher, en croyant que c'est le meilleur. C'est le meilleur des critères. J'ai choisi ce qui était le plus cher. Donc c'est sûrement le meilleur. Ça ne veut rien dire du tout. Parce que le choix qualitatif, ça, seul celui qui a justement le goût peut le saisir. Les autres non. Alors, c'est les deux gammes. Alors, dedans, vous voyez, vous pouvez hiérarchiser cette gamme en voyant que le choix à l'égard de l'ami, c'est le plus plein d'amour. C'est là où l'amour est le plus fort. Tandis que le choix de l'outil, c'est là où l'intelligence est la plus forte. Vous avez toute la gamme entre les deux. Je ne fais pas ici, mais ce serait intéressant. Faites-le vous-même. Et si vous arrivez à faire quelque chose de bien, vous le soumettrez. Et puis on pourra le lire toujours. C'est intéressant à voir quand même toute la gamme qui existe au niveau du choix. On retrouverait toutes les modalités de la personne. Ça, j'en suis sûr. Toutes les modalités de la personne. Le choix du sage, le choix de l'homme prudent, le choix de l'ami, le choix de l'artiste, le choix parmi les artistes. Vous verrez toutes les gammes. Parce que la personne humaine se noue autour de ça. Donc, il faut bien faire attention quand on parle du choix. On dira toujours qu'un choix est libre. On dira toujours qu'un choix implique intelligence et amour. Mais on voit que le mélange entre l'intelligence et l'amour peut être extrêmement varié. Et alors, parallèlement à ce choix, il y a la phase du conseil. Et plus l'aspect intellectuel augmente dans le choix, plus le conseil devient important. Plus le point de vue de l'amour est important, moins le choix, moins la phase du conseil est importante. Et à la rigueur, au terme, il n'y a plus de conseil. Et c'est vrai. C'est vrai. À la rigueur, au terme, il n'y a plus de conseil. Quand vous êtes en face d'un choix tout à fait personnel, donc qui porte vraiment sur une personne, vous vous effacez. Vous dites en définitive, là, je ne peux plus rien. Et au fond, on doit toujours s'effacer. Quand il s'agit d'un choix d'avis, on doit toujours s'effacer. On peut donner des conseils, tandis que lorsqu'il s'agit d'un choix d'outils, ah, vous pouvez vous imposer. Hein. J'ai la compétence, et là je te dis, hein, si tu ne fais pas ça, tu fais bien. Vous ne pouvez jamais dire ça dans un choix d'avis. Vous ne pouvez jamais dire à quelqu'un, si tu fais ça, tu fais une gaffe. Non, parce que c'est quelque chose de trop personnel. Parce que c'est trop le point de vue de l'amour. Voyez, l'amour étant là, on doit s'effacer. Donc, à la rigueur, vous voyez, le conseil meurt dans le choix le plus particulier. Le conseil meurt. Tandis qu'au contraire, plus le choix porte sur un moyen objectif, plus le conseil peut être impératif. Alors, après le choix, il y aura un acte particulier qu'on va appeler l'impérium, l'impératif catégorique. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Alors là, c'est là où on va s'affronter avec Kant. Et on va s'affronter avec ce qu'on représente, ce qui a de tout à fait caractéristique à l'impérium. Le choix demeure intérieur. Je choisis au plus intime de mon cœur. Mais il faut passer maintenant à la phase d'exécution. Et passer à la phase d'exécution, alors c'est l'impérium. Ça c'est l'impérium, vous voyez. C'est l'impérium, phase d'exécution. Ce n'est pas un choix.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres.